chapitre 4 du livre des Rois, on a vu comment, après quelques difficultés, la volonté de David s'était imposée et que celui qu'il avait désigné comme son successeur, Salomon, avait accédé au trône et s'était au passage débarrassé d'ennemis de David ou d'ennemis de lui-même, et qu'il était arrivé à un moment où son royaume était affermi. On a vu comment ce roi qui aimait le Seigneur n'avait peut-être pas fait tout ce que le Seigneur voulait, notamment en épousant une fille du Pharaon. Et on sait, et on le verra, qu'il a pris un fâcheux penchant pour des raisons politiques ou des raisons d'orgueil d'épouser beaucoup de femmes étrangères, et en permettant qu'elles adorent leurs idoles. Et ça, c'est toujours très dangereux, de laisser le compromis s'installer. On peut continuer à adorer le vrai Dieu, mais si on laisse des idoles traîner dans notre vie, ça finit par nous rattraper, et c'est jamais bon. On a vu comment le Seigneur lui était apparu dans un songe en lui demandant un vœu, et demande-moi ce que tu veux que je te donne. Ça, c'est le verset 5 du chapitre 3. Et vous vous souvenez qu'en fait, David aurait pu demander la richesse, il aurait pu demander la gloire, la santé, la force, mais il a demandé la sagesse pour pouvoir gouverner le peuple que Dieu lui confiait. Et on a dit que cette formule avait plu au Seigneur, et le Seigneur lui avait accordé cette sagesse qui vient d'en haut, dont il est question dans le livre de Jacques, sagesse qui est bien supérieure à la sagesse humaine. Et nous avons déjà vu comment Salomon avait utilisé cette sagesse dans un épisode bien célèbre de ces deux femmes qui se disputaient un bébé en disant chacune que c'était le leur, l'autre ayant perdu son bébé dans son sommeil en étouffant son bébé. Et c'était la parole d'une personne contre la parole d'une autre personne, mais grâce à cette sagesse d'en haut, Dieu inspire à Salomon de faire comme s'il allait couper l'enfant en deux et en donner un morceau à chacune des mamans. Et bien sûr, la vraie maman est prête à abandonner son fils pour lui garder la vie sauve, et elle confirme le fait que c'est elle la maman et non pas l'autre. Et cette sagesse, on a dit aussi, on a fait une petite remarque en comparant Salomon à David. Salomon, même s'il voulait plaire à Dieu, on sent jamais qu'il avait la même intensité, la même ferveur, la même intimité avec Dieu que son père David. Et je vous suggérais à la fin de cette étude du chapitre 3 que peut-être si Dieu avait demandé à David « Qu'est-ce que tu veux que je te donne ?» il n'aurait pas demandé quelque chose pour servir Dieu, il aurait demandé davantage de Dieu. Encore une fois, ce n'était pas une mauvaise chose que demander la sagesse, mais nous-mêmes, est-ce que nous voulons des outils? Est-ce que nous nous pensons d'abord à servir le Seigneur plutôt qu'au Seigneur lui-même? Et ça, c'est peut-être une petite nuance pour certains, mais ça fait toute la différence. Est-ce que je veux connaître Jésus? Est-ce que quand je lis la parole, je cherche à le rencontrer? Je cherche à recevoir ses instructions? Ou est-ce que je cherche à trouver de la sagesse pour m'aider dans ma journée? Elle sera là aussi, mais qu'est-ce que vous cherchez d'abord? Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord Jésus, le roi, et tout vous sera donné en plus. Au chapitre 4, on voit comment Salomon était maintenant installé sur tout Israël. C'était vraiment l'âge d'or d'Israël au niveau de la population, de le pays était en paix, grâce en fait aux batailles qu'avait livrées David. Et nous, bien souvent, nous oublions que si nous pouvons avoir la paix avec Dieu et la paix de Dieu, on en parle dans l'étude de Romains et dans Philippiens 4, c'est grâce à la terrible bataille que Jésus a remportée sur le péché et sur Satan. Et donc le peuple et David et le roi Salomon profitaient de cette paix. Le pays était très étendu, il allait jusqu'aux rives de l'Euphrate. Il n'était toujours pas aussi grand que ce que le Seigneur leur avait promis, qu'il leur avait donné, mais encore faut-il avoir la foi pour occuper le territoire que le Seigneur nous donne. Et ça, c'est vrai aussi dans nos vies. Le Seigneur nous dit que nous avons la victoire sur le péché, mais on peut rester en deçà de cette victoire et se laisser maltraiter par le péché. Si on manque de foi. On voit dans ce chapitre 4, on ne va pas lire tout en détail, d'abord que cette sagesse, il l'utilisait pour s'entourer de personnes, pour déléguer et pour gérer politiquement le pays. Et ça, c'est une des grandes qualités des grands leaders, c'est de savoir déléguer. Et je ne suis pas très, très doué dans ce domaine. Et ça restreint le ministère. Et c'est un peu le problème en France, dans les assemblées. S'il y a un pasteur pas mauvais, il a 60 personnes. S'il est un bourreau de travail, il va arriver jusqu'à 120 personnes. Puis s'il ne sait pas s'entourer, s'il ne sait pas déléguer, il ne va jamais avoir une église plus grande. Les églises qui grandissent, sans chercher à devenir nécessairement une méga church, ce sont les églises où le pasteur sait donner des responsabilités aux gens. Ça veut dire leur donner la possibilité d'échouer, les pardonner quand ils échouent, et les encourager quand ils font bien. Et je vous demande de prier pour moi dans ce domaine. Souvent, quand on a démarré une église dans son salon, on a l'habitude de tout faire, de tout savoir, tout ce qui se passe. Et c'est vraiment une joie de savoir que certains d'entre vous maintenant prennent des parties du ministère et que vous avez ma confiance et parce que je vois les résultats et c'est vraiment comme ça qu'on peut espérer grandir, avoir un impact. La question, c'est pas de grandir, c'est de toucher le plus grand nombre de personnes possible avec l'Évangile. Et donc, lui, le roi Salomon, il avait cette sagesse, il avait ce don. On voit la liste de ses ministres. Il est dans la Bible à la colombe, il est question des ministres. Dans d'autres versions, il est question des officiels. Et il avait un cabinet rapproché, il avait un conseil des ministres assez restreint, 7-8 personnes. Et puis il avait aussi nommé, verset 7, 12 préfets sur Israël, qui eux devaient pourvoir à l'entretien du roi et de sa maison. C'est-à-dire qu'ils devaient amener tous l'argent, les vivres pour nourrir le roi. Et ce qui est intéressant, on va pas encore une fois lire tous les noms, je vous laisse lire cela, c'est que il avait divisé le pays en 12 préfectures, on dirait, mais c'était pas nécessairement des préfectures qui correspondaient à des tribus. Et là aussi, c'est une preuve de sagesse. C'est un bon leader, c'est un bon responsable qui sait faire quelque chose de nouveau et qui ne fait pas quelque chose parce que simplement ça, c'est que on a toujours fait comme ça. Il n'y a pas de raison d'en changer. Ça porterait peut-être malheur ou les gens rouspèteraient. Non, il découpe le pays en différents groupes qui reprennent un peu les tribus, mais pas nécessairement. La tribu de Juna n'est pas représentée dans le sens où elle n'a pas à pourvoir aux besoins du roi, lui qui était de la tribu de Juda dans Israël. Et là, au verset 20, il est dit « Juda et Israël étaient nombreux comme est nombreux le sable qui est sur le bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. » C'était l'âge d'or d'Israël, la paix, la prospérité, le nombre, tout va bien. Mais en même temps, quand on lit ce passage, ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. On ne parle pas de leur vie spirituelle. Et on peut se demander si cette vie spirituelle, justement devant cette prospérité, devant cette abondance de biens physiques, de paix, de tranquillité, est-ce qu'elle n'était pas sacrifiée? Alors, ce serait merveilleux si on pouvait grandir spirituellement dans la prospérité, dans la paix, mais notre vieille nature de pécheur est telle qu'elle a tendance à s'endormir spirituellement. On se demande des fois pourquoi les épreuves nous arrivent. Alors, bien sûr, elles arrivent dans ce monde parce que ce monde est entaché par le péché et que nous sommes dans ce monde imparfait. Il y a le péché en nous, il y a le péché autour de nous. C'est surtout le péché autour de nous qu'on remarque. Mais il est en nous aussi. Et il y a des problèmes qui arrivent parce qu'on vit dans un monde imparfait, un monde entaché par le péché. Le Seigneur peut des fois provoquer ces situations où il peut les permettre pour nous secouer de notre torpeur spirituelle. Est-ce que vous êtes dans un état de torpeur spirituelle? Je laisse l'Esprit Saint nous sonder tous. Est-ce que on peut continuer à faire les gestes, à fréquenter les réunions, même à lire la Bible? Mais est-ce qu'on a vraiment soif de connaître davantage le Seigneur? Des fois, il va nous montrer que ce qui nous satisfait profondément, la paix, la prospérité, c'est pas ce qui compte, avec des épreuves. Et dans ces épreuves, on va crier vers Dieu. Et ça, c'est souvent l'histoire de l'Ancien Testament. Dieu donnait la prospérité, les gens s'endormaient, s'éloignaient de lui, commençaient à adorer des idoles. Est-ce que vous adorez des idoles? Ça peut être la télévision, ça peut être votre ordinateur, ça peut être votre iPad, votre iPod, votre... je ne sais pas quoi. Ça peut être... votre forme physique, ça peut être les résultats au travail, ça peut être le nombre de personnes qui fréquentent l'Église. Tout ça, ça peut être des idoles, quand ce n'est pas Dieu pour Dieu lui-même. Et là, on peut se réjouir avec Salomon que tout allait bien maintenant. Et c'est pas une question de se dire si tout va bien, c'est qu'il y a quelque chose qui va m'arriver sur la tête. Donc, si tout va bien avec le Seigneur, vous n'avez pas à craindre que du jour au lendemain, il vous punisse ou prenez ce qu'il vous donne, remerciez-le pour les bonnes choses. Comment rendrai-je au Seigneur tous les bienfaits qu'il me donne, qu'il m'accorde? Savourez-les, remerciez-le. C'est la façon dont on apprécie la prospérité qui vient du Seigneur, c'est en lui rendant grâce, en reconnaissant que c'est lui seul le responsable. C'est pas mes capacités, c'est pas mes talents, c'est pas mes relations. Toutes ces choses-là, c'est lui qui les donne, parce qu'il veut nous bénir. C'est un triste fait que des gens ont perverti cette prospérité que le Seigneur veut nous donner pour en faire la recherche essentielle de leur vie de chrétien. Ils ne recherchent plus le Seigneur, ils recherchent la prospérité. C'est la doctrine de la prospérité qui nous dit que si nous servons le Seigneur sérieusement, il est contraint de nous bénir. Non, il n'est pas contraint de nous bénir, et souvent il nous bénit quand on ne mérite pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire « mais je pensais que j'allais prendre un grand coup de bâton sur les doigts et voilà une autre bénédiction ?» Ça veut dire que le prochain coup de bâton, ça va faire mal. Faisons confiance au Seigneur, remettons-lui nos joies, nos peines, mais surtout, sachons le remercier dans la prospérité. Et on dit que pour une personne qui sait aimer Dieu dans la prospérité, il y en a 99 qui ne savent pas le faire, qui l'oublient et qui le laissent tomber. On va voir que il avait établi un système très, très structuré qui marchait très bien. Et le résultat, c'était que le peuple prospérait, il mangeait, buvait et se réjouissait. Chapitre 5 dit que Salomon dominait encore sur tous les royaumes depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Ils apportaient des présents et furent assujettis à Salomon tous les jours de sa vie. Donc il avait remporté son père, plus exactement, avait remporté des victoires et lui en bénéficiait. Les peuples qui avaient été assujettis apportaient des présents, des taxes au roi Salomon. Et là, on a une description de sa richesse, de sa prospérité matérielle. Verset 2 du chapitre 5, « Chaque jour, Salomon consommait en vivres 30 cors. » Un cor, c'est à peu près 220 litres de capacité, 30 cors de fleurs de farine et 60 cors de farine. Certains ont essayé de faire le calcul, ils disent ça correspond à 9 tonnes de pain. Une baguette, ça pèse 200 grammes ou 250, 200 grammes, donc ça fait 5 fois plus, ça fait 50 000 baguettes chaque jour. Alors vous allez me dire, surtout si on regarde, il y avait 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage, un bœuf des bœufs, de pâturage et 100 têtes de petits bétail, outre les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées. Vous allez me dire que Salomon était un goinfre. Je ne pense pas, mais il avait beaucoup de serviteurs. On sait qu'à la fin de son règne, il avait 700 femmes et 300 concubines. Même si elles faisaient le régime, ça fait quand même de la nourriture. Et surtout, il avait l'habitude d'accueillir des délégations entières. Ça fait penser un peu aux frais de bouche de l'Élysée, ces genres de choses. Tout ça, c'était pour nourrir. Certains pensent qu'il pouvait nourrir chaque jour jusqu'à 9000 ou 15000 personnes. C'est avec toutes les animaux, on pense que pour ce nombre de personnes, ça faisait 750 grammes de viande. C'est un bon Whopper, c'est un bon Big Mac, ça. Et il exerçait son autorité sur tout le pays. Et là, les endroits qui sont donnés, c'est l'étendue la plus grande du royaume d'Israël, mais c'est encore beaucoup plus petit que ce que Dieu avait promis à Israël. Pourquoi ? Parce qu'ils ont manqué de foi et ils n'ont pas conquis tout le territoire que Dieu avait pour eux. Et nous aussi, nous restons à l'intérieur de ce que Dieu a pour nous. Comme je le disais, nous laissons le péché nous limiter. alors que Dieu a de grands projets. Judas et Israël, verset 5, depuis Dan, c'est au nord jusqu'à Beersheba, tout au sud, habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tous les jours de Salomon. Ça, c'était une belle expression. Avoir sa vigne et son figuier, c'était avoir son vin, c'était avoir ses fruits, c'était être prospère. Salomon avait des écuries pour 40 000 chevaux pour ses chars et 12 000 cavaliers. Il y a un autre endroit dans les chroniques qui relate certains des mêmes événements. On dit que les rois, c'est l'histoire vue par les hommes et que les chroniques, c'est l'histoire vue par Dieu de ces mêmes hommes. C'est intéressant de comparer quelquefois ces différentes visions de ce qui se passe. Le livre des chroniques, 2 chroniques 9-25, parle plutôt de 4000 chevaux, donc on se demande si peut-être il n'y a pas une erreur de transcription. Mais une chose est sûre, c'est qu'il avait beaucoup de chevaux. Il y a un endroit où il dit qu'il avait 1200 ou 1400 chars à 2 chevaux, ça fait... Ils avaient des 2 chevaux. Ça fait 2800 chevaux, plus encore 1200 chevaux pour ses cavaliers. Il avait des grandes forces. Quand nous allons aller en Israël, nous pouvons visiter à Megiddo les ruines de l'ancienne cité de Megiddo. On voit des ruines des écuries de Salomon. Et encore une fois, je vous confie qu'aller en Israël, ça rend tous ces passages tellement plus vivants. Au lieu d'être un vieux livre d'histoire, c'est des choses que vous avez vues de vos yeux. Si vous pouvez vous offrir, je sais que c'est pas évident pour tous et que tous ceux qui voudraient ne pourront pas aller. Mais encore une fois, ne limitons pas le Seigneur. Si le Seigneur a mis ce désir sur vos cœurs, priez pour que ça puisse se matérialiser. Les préfets, donc l'administration qu'il avait mise en place au chapitre dont il est question, au chapitre 4, avec ses 12 préfectures, les préfets pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon et de tous ceux qui s'approchaient de la table du roi Salomon. Chacun pendant son mois, il ne laissait manquer de rien. Il faisait aussi venir de l'orge, de la paille pour ses chevaux, pour les chevaux et les coursiers, chacun à l'endroit où il se trouvait appelé par ses fonctions. La table du roi, table du roi Salomon, était réputée dans le monde entier. Mais il fallait pourvoir à tous ses besoins et on voit que en fait Salomon faisait des rotations, que c'était périodiquement que les régions, les préfectures devaient pourvoir. Il avait eu la sagesse de ne pas accabler le peuple d'un seul coup. Mais quand même, c'était beaucoup de ressources qui étaient demandées. Et ça, c'est aussi lorsque Salomon va mourir, son royaume va être divisé en deux parce qu'il va y avoir une rébellion contre l'imposition, contre les demandes qui étaient faites par le roi. Ce qui est intéressant, c'est si vous vous souvenez, dans 1 Samuel, Dieu avait prévenu son peuple que s'ils avaient un roi, le roi leur demanderait beaucoup de choses. Souvent, on a l'impression que Dieu nous demande beaucoup de choses. Mais si on laisse le péché être notre roi, souvent, il nous demande beaucoup plus. Être accro à la Bible, c'est peut-être terrible quand c'est pas vous qui l'êtes. Mais si vous n'êtes pas accro à la Bible, à quoi êtes-vous accro ? La drogue, le péché est un bien mauvais maître. Il faisait venir de l'orge, verset 8, il y a cette phrase, chacun se trouvait à l'endroit où il se trouvait, était appelé par des fonctions. Et ça aussi, c'est un des secrets des églises qui ont atteint un impact, une influence. C'est qu'il n'y a pas de... n'y a pas des gens qui sont seulement spectateurs. Tous exercent des fonctions. Alors, ce n'est pas nécessairement avec un titre, avec un bureau ou un chèque de salaire que vous allez être... Mais tous, vous avez des dons et tous, vous pouvez participer à la vie de l'Église. Et chacun de vous a des dons, un ou plusieurs. Et ces dons, soit vous les laissez mourir... Vous les entretenez pas, vous les développez pas, soit vous les recevez comme un cadeau et vous les mettez en application. Et non seulement vous allez aider à la croissance de l'Église, à la croissance de l'ensemble, vous allez faire progresser le royaume de Dieu, mais vous allez être incroyablement béni en retour. Et c'est souvent comme ça qu'en fait, il y a 20% des gens qui font 80% du travail parce que ces 20% ont réalisé que c'était formidable de servir le Seigneur. Et ils accaparent. Alors on ne veut pas que tout soit accaparé par 20% et on veut que chacun se sente appelé, se sente à sa place dans une tâche. Et encore une fois, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les capacités, pour toutes les degrés d'engagement. C'est sûr que quelqu'un qui est marié avec toute une famille a des responsabilités qu'en a pas un étudiant qui doit simplement s'assurer qu'il suit ses cours et qu'il travaille un peu et qu'il réussit ses examens. Et donc, en fonction de votre situation, le Seigneur a quelque chose pour chacun de nous, pour chacun de vous. Dieu, verset 9, donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances étendues comme le sable qui est au bord de la mer. Une intelligence, c'est cette capacité, cette sagesse pour la conduite des affaires. Des connaissances étendues, c'est le mot, en fait, c'est largeur de cœur. Il était intéressé par tous les hommes et aussi par tous les sujets de connaissance. On verra qu'il avait, plus loin il sera question des livres qu'il a écrits, un peu plus loin, on va lire. « Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances étendues comme le sable qui est au bord de la mer. » La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, l'Ésraïte, plus qu'Éman, qu'Alcol et Darda, les fils de Mahol, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations environnantes. Il a prononcé 3000 proverbes, et ses chants sont au nombre de 1005. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort du mur. Il a aussi parlé sur les bêtes, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. On venait de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de la sagesse, de sa sagesse. Une sagesse incroyable. Il est question de deux personnages, Étan, l'Ésraïte et Éman. On parle d'eux dans la Bible parce qu'ils sont les auteurs du psaume 89 pour le Étan et psaume 88 pour Éman. On n'a pas d'autres mentions de Calcol et Darda. Mais apparemment, ils étaient renommés à l'époque pour leur sagesse. Salomon a écrit, prononcé 3000 proverbes. On n'en a que près de 600 qui soient répertoriés et relevés dans les proverbes, dans le livre des proverbes. Il avait composé beaucoup de chants. On n'a que le chant des chants, le cantique des cantiques qui soit resté. Et on peut penser que c'est l'Esprit Saint qui en a décidé ainsi, parce que l'Esprit Saint sait ce qui est vraiment inspiré, ce qui est, ne l'est pas. Il a parlé de tout, de la science de son époque. Les arbres, il parlait du plus beau des arbres, le cèdre du Liban, jusqu'à l'hysope, cette petite plante qui poussait sur les murs. Il a parlé des bêtes, des oiseaux, des reptiles, des poissons. On peut penser qu'il avait écrit des recueils scientifiques. Il observait les plantes, il avait des jardins où il observait ce qui se passait. C'était encore une fois quelqu'un qui avait reçu une sagesse. Unique à son époque, et Dieu lui a donné en plus la richesse, la prospérité. On va, dans le reste du chapitre 5, parler un peu du commencement, de la préparation pour la construction du temple de Dieu. Et ce qui est intéressant lorsque l'on commence à parler de la construction du temple, on sait que Salomon lui-même dira plus tard, on le lira dans le chapitre 10, je crois, que Dieu ne peut pas habiter une maison faite par la main des hommes. Dieu qui est infini, il ne peut pas se réduire à la taille de quelqu'un qui est limité dans un bâtiment. Lorsqu'on dit qu'ici c'est la maison de Dieu, Dieu est présent, mais il dépasse de beaucoup. Ce temple, cette présence de Dieu parmi les hommes, le Nouveau Testament nous apprend qu'en fait, Dieu a décidé d'une autre façon d'habiter parmi les hommes. 1 Corinthiens 3, 16. Paul interpelle les Corinthiens et interpelle tous les chrétiens. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Dieu vient habiter en chacun de nous. Le temple, c'est plus des pierres, c'est pas les bâtiments, les murs d'une église. Le temple de Dieu, c'est chacun de ses enfants. Dans Éphésiens 2, verset 19, Paul dit aussi aux Éphésiens et à tous les chrétiens, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes des concitoyens des saints, de ceux qui sont appelés, séparés pour Dieu, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés, bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint. » Dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Dieu habite en nous en esprit. Nous sommes le temple saint dans le Seigneur. En fait, le temple, c'était une préfiguration de ce que Dieu avait prévu de toute éternité. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu en nous, son Esprit Saint qui demeure dans le Nouveau Testament, quand il vient en nous, il habite pour toujours. Si on l'a vraiment reçu dans notre cœur, il ne nous quitte jamais. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, mais on a cette assurance que Dieu ne nous quittera jamais. Et donc, lorsqu'on voit comment Salomon, qui est un type de Jésus-Christ en tant que roi, on pense aussi à ce que Dieu veut faire en bâtissant l'Église. Et c'est lui qui bâtit l'Église. C'est pas les pasteurs ou les dénominations qui construisent l'Église, c'est Jésus lui-même. Parlant à Pierre, qui venait de reconnaître que Jésus était le Messie, le Fils du Dieu vivant, sur cette grosse déclaration, cette déclaration énorme, cette pierre. Jésus dit à Pierre, je dis que tu es Pierre, la petite pierre, et que sur cette pierre, ce gros rocher, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. C'est Jésus qui bâtit son église. Et ça, c'est formidable parce qu'on peut se relaxer. On n'a pas à transpirer, à se stresser. Si on est proche de lui, si on le laisse agir, si on est dans une intimité telle que lorsqu'il nous dit d'aller à droite, on va à droite, quand il nous dit d'aller à gauche, on va à gauche, on peut lui faire confiance pour faire grandir l'Église. Et cette Église, elle grandit dans le monde entier en ce moment. On a souvent l'impression, on voit les photos de la Kaaba, la Mecque, on voit des 1,2 million de personnes qui tournent autour, on entend dans les médias, les musulmans prennent le pouvoir ici, il y a des zones de non-droit, il y a des Européens qui se convertissent à l'islam, c'en est fait de nous. Non, Dieu aime les musulmans. Et il veut qu'ils connaissent l'évangile. L'évangile de la vérité, de l'amour de Jésus-Christ. Et dans le monde entier, la religion qui grandit le plus vite, c'est la religion, entre guillemets, évangélique. Ce sont des gens comme vous et moi qui reçoivent le message et qui disent « je ne peux pas le garder pour moi ». Et vous n'avez pas besoin d'aller très loin, vous partagez ce message par tous les moyens, en faisant Jésus dans Marc l'expérience, en prenant un groupe de jeunes, en leur parlant du Seigneur, en parlant de Jésus, en réconfortant les gens qui sont dans la difficulté avec l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur, en priant pour eux, en leur demandant si vous pouvez prier pour eux. Et c'est ainsi que Jésus bâtit son Église. Ce n'est pas une méthode humaine. On a tendance, et c'est là où les dénominations essayent d'organiser les troubles, de faire des plans d'attaque, des stratégies. Mais la vraie stratégie, c'est d'être proche de Jésus. C'est d'être proche de Jésus, de marcher selon l'Esprit. Et là, vous n'avez pas de soucis à vous faire. La puissance de l'Évangile est telle que ça va grandir. Et ça grandit. Amen. On voit... revenons un peu à notre passage, 1 Roi 5, si je retrouve, voilà. Il y avait un roi de Tyr avec qui David était proche, le roi David. Le roi David était un roi plein de sagesse parce que je crois qu'il était un roi plein, près, selon le cœur de Dieu. Il avait des voisins avec qui il était très ami. Il y avait notamment le roi de Tyr, une nation païenne, Hiram était le roi, et il avait établi de bons rapports. Vous savez que David avait réalisé qu'en fait il se construisait un palace. On a trouvé les ruines de ce palace, de ce palais, à Jérusalem maintenant. Et il s'était dit, mais en fait, moi j'habite dans une maison avec des panneaux lambrissés, ça c'était le dernier cri. Il fallait aller en hébreu, c'était Rekea, c'était un magasin spécialisé, où ils vendaient des panneaux en chêne. Et ça c'était le dernier cri. Et il se disait, je vis dans le luxe, et Dieu il habite dans une tente, il fait du camping. Dieu avait établi le tabernacle comme une tente que les Juifs, dans leur exil, pouvaient transporter avec eux. Et c'était parfaitement adapté. Mais David se dit, maintenant qu'on a un lieu, qu'on ait une capitale, c'est un scandale que moi j'ai une belle maison et que Dieu habite dans une tente. Et donc il en a parlé à Nathan et Nathan lui a dit « Oh mais c'est formidable, oui vas-y, fonce !» Et puis Dieu a repris Nathan en lui disant « Hop, Nathan, tu as encore donné des conseils sans me demander mon conseil. » Et il a dit, « Non, ce n'est pas David qui va construire le temple. Ce sera celui qui va venir, son fils, parlant de Salomon, parce que David est un homme de guerre. Donc apparemment, s'il y avait les mains avec du sang de la guerre contre les ennemis, Dieu ne voulait pas que ce soit les mêmes mains qui fassent la construction du temple. Mais on va voir aussi qu'un pays en guerre n'aurait pas pu autoriser qu'un si grand nombre de personnes travaillent à la construction du temple. Il fallait mobiliser toutes les énergies. Et ce roi de Tyr fait dire à plutôt c'est Salomon qui envoie dire à ce roi que c'est lui maintenant qui va construire le temple, une maison au nom de l'Éternel mon Dieu, comme, verset 19, comme l'Éternel l'a déclaré à mon père David en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur son trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il demande qu'on lui coupe les cèdres du Liban. C'était encore une fois un bois merveilleux pour la construction. C'était un bois qui était imputrescible, qui a une forte odeur, qui résiste aux insectes nuisibles, qui est facile à tailler. Et donc c'est avec ce bois que Hiram met à sa disposition. La seule chose qu'il demande, c'est qu'on nourrisse ses travailleurs. Non seulement il donne le bois, il donne des travailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est des juifs et des non-juifs qui vont construire la maison du Seigneur. Et aujourd'hui encore, l'Église, c'est les juifs et les non-juifs. Alors il n'y a peut-être pas beaucoup de juifs encore, mais Dieu, en Jésus, a aboli la séparation qui, dans le tabernacle, dans le temple, séparait la cour des juifs et la cour des païens. Dieu, on aurait pu penser qu'il n'aurait pas autorisé qu'on utilise des païens pour construire son temple. Eh bien, pas du tout, ça ne gêne pas. Et Dieu est prêt à utiliser toutes les personnes pour construire son royaume. Les bouddhistes, les athées, les musulmans. La seule chose, c'est que quand ils vont venir à le servir et qu'on venir à lui, ils ne vont pas rester longtemps athées, musulmans, bouddhistes. Ils vont reconnaître qu'il est le vrai roi. Et donc, Salomon continuait à nourrir tout ce monde. Il y a des quantités énormes de nourriture qui doivent être distribuées. Et puis, à la fin du chapitre 5, on voit encore qu'il y avait des tailleurs, il y avait des travailleurs, et puis il y en avait d'autres, il y avait des sous-chefs, il y avait vraiment une structure très, très intelligente qui était mise en place pour que tout ça marche, pour que tout ça fonctionne. Et versets 31 et 32, le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres pour poser en pierre de taille les fondations de la maison. Les ouvriers de Salomon, les ouvriers de Hiram et les Gibliens les taillèrent et préparèrent les bois et les pierres pour bâtir la maison. Ça fait penser à une vieille légende, pas une légende, une histoire qui était racontée de façon traditionnelle, de bouche à oreille. Et quand on va à Jérusalem, on peut descendre dans les fondations du temple, du mur du temple, et c'est pas le temple que Salomon a bâti, c'est celui qu'Hérode a rebâti. Mais on voit la façon dont des pierres énormes, qui sont aussi hautes que ces murs d'un seul tenant, que des machines de levage aujourd'hui auraient beaucoup de mal à manipuler, ces pierres sont parfaitement taillées. On ne peut pas mettre un couteau entre les pierres qui sont construites sans mortier, sans ciment. C'est parfaitement taillé. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient développé des techniques et surtout ils avaient un tel zèle de construire comme pour le Seigneur qui faisait un travail de perfectionniste que l'on peut voir encore aujourd'hui. Et donc, il y avait des carrières. On voit aussi des carrières où les pierres étaient taillées. Et puis, la légende, c'est que... la tradition raconte qu'on mettait des numéros sur les pierres. Il y avait un plan, un peu comme un Lego, ou comme un meuble Ikea, pour reparler de Ikea. Et il y avait des numéros, il y avait un plan, et on savait qu'à tel endroit, il fallait la pierre 127, et on allait chercher la pierre qui avait été amenée sur le chantier, et on mettait la pierre 127 qui marchait parfaitement avec la 126. Et puis on raconte qu'il y avait une pierre qui avait été... On ne savait pas à quoi elle était, soit on avait mal mis son numéro, soit on ne savait pas à quoi elle servait. Finalement, après, elle avait été restée sur le chantier, les ouvriers l'avaient jetée dans un coin. Et puis, quand ils sont arrivés, ils se sont dit, mais il nous manque une grosse pierre. Et quelqu'un s'est dit, ah, mais je me rappelle, là, derrière les ronces, là, il y a 6 mois, on avait jeté une grosse pierre qui avait l'air d'avoir été mal taillée. Et en fait, c'était la pierre d'angle. C'était la pierre d'angle qui, quand on l'a prise en place, est allée parfaitement à l'endroit où elle manquait. Et c'est sans doute une histoire vraie parce que il en est question plus de 6 fois dans la Bible. Si vous regardez avec moi le psaume 118, verset 22, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, celle de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un miracle à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, à cause d'elle soyons dans l'allégresse et dans la joie. Cette idée que cette pierre qu'on a rejetée, c'est en fait la pierre d'angle. Et vous avez peut-être une référence qui dit que ce texte est cité dans Matthieu 21, 42, Luc 20, 17, Actes 4, 11, Éphésiens 2, 20, 1 Pierre 2, 17. Ce qui donne à croire que c'était une histoire authentique. Et si on regarde, on va regarder juste la dernière référence, 1 Pierre 2, 17. C'est pas 17, c'est 1 et 7. On va lire à partir du verset 4 du chapitre 2, on va terminer avec ça. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, encore cette image du temple, un saint sacerdoce, une sainte prêtrise, on dirait, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il y a dans l'Écriture, voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle est une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y achoppent en désobéissant à la parole et c'est à quoi ils ont été destinés. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Donc, la parole, le Saint-Esprit a pris cette histoire authentique, je pense, de cette pierre qui avait été mise à l'écart pour dire qu'en fait, cette pierre qui avait été rejetée, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus qui va être la pierre, la fondation du temple que nous sommes, du temple de son Église qu'il bâtit. Si nous faisons toute autre construction qui n'est pas fondée sur Jésus-Christ, si nous disons que Jésus c'est un frère de l'archange Michael, ou si on ne reconnaît pas qu'il est Dieu, qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu le Fils, on va pas pouvoir construire. Par contre, si on appuie tout ce qu'on fait pour lui, sur cette pierre d'angle, alors il peut construire des choses merveilleuses. Amen.